Le 20 mars 2003, une coalition militaire menée par les États-Unis d'Amérique entrait officiellement en guerre contre l'Irak. Les raisons officielles invoquées pour justifier cette invasion étaient entre autres liées à la détention et à la prolifération d'armes de destruction massive par le régime de Saddam Hussein. Le 5 février 2003, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Colin Powell l'affirme, je cite, « Chacune des déclarations que je fais aujourd'hui s'appuie sur des sources solides. » Il le dit en anglais, bien sûr. Pourtant, après le déclenchement de la guerre, aucune arme de destruction massive n'a été retrouvée sur place. Il faut alors se rendre à l'évidence. Les soi-disant preuves solides collectées par le renseignement américain n'étaient pas correctes. Elles étaient basées sur des informations peu fiables, les analyses étaient bâclées, des éléments cruciaux reposaient sur un seul témoignage qui s'est avéré être mensonger. Les conclusions reposaient sur des hypothèses erronées. Et à ce titre, la CIA a reconnu dans un rapport officiel publié en 2005 sa responsabilité dans ce fiasco. Le fondement intellectuel qui a permis de justifier cette invasion était basé sur du vent. Les alliés qui ont suivi les États-Unis en se basant sur ces fameuses preuves ont été trompés. Les faits et la vérité comptent. Nous en avons là un exemple historique important. Chacun a besoin, n'est-ce pas, de s'appuyer sur des éléments solides pour prendre des décisions. Dans le cas contraire, on tombe dans l'irrationnel ou dans la folie. En cette période de Noël, nous avons l'habitude de parler de la crèche, des mages, de la naissance de Jésus-Christ dans des circonstances miraculeuses, n'étant pas qu'il est né d'une vierge. Mais la Bible nous parle aussi des miracles qui ont été réalisés par Jésus, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, l'acte le plus incroyable que l'histoire n'ait jamais connu. Mais finalement, pourquoi y croire à tout cela ? Quelles sont nos sources ? Comment pouvons-nous être sûrs ? Sommes-nous des Colin Powell trompés ? Ou bien sommes-nous des personnes bien informées ? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour nous, pour moi aussi. Un auteur a déjà anticipé toutes ces questions et il a mis un point d'honneur à enquêter minutieusement pour nous convaincre que les événements qui sont rapportés dans l'Évangile sont authentiques. Cet auteur, c'est Luc, le rédacteur de l'Évangile qui porte son nom et du livre des Actes des Apôtres. Mon souhait le plus cher, si vous êtes chrétien ce matin, c'est que votre foi sorte fortifiée de cette prédication, que vous vous sentiez plus affermi pour la partager avec ceux qui affichent leur scepticisme. Et si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus-Christ, eh bien que vous ressortiez de là avec la conviction que le récit de la vie de Jésus n'est pas une fable pour des gens crédules, mais qu'il mérite d'être considéré avec une grande attention. Le récit de la vie de Jésus, c'est une histoire fiable, capable de donner des certitudes. Pour cela, je vous propose d'ouvrir nos Bibles à Luc, donc, au chapitre 1, les versets 1 à 4. Nous ferons ensuite une incursion dans le livre des Actes. Donc ce passage des Actes ne constituera pas le cœur de cette prédication, mais il sera quand même important de l'avoir à l'esprit. Nous commençons déjà par Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus les ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et regardons donc juste après dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 1 à 3. « Actes, chapitre 1, versets 1 à 3, qui est en quelque sorte la continuation de ce que nous venons de lire dans Luc. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voilà. Donc, revenons sur Luc, du coup. Quelques mots déjà sur Luc avant de rentrer dans le vif du sujet. Que savons-nous de lui, puisque nous nous intéressons à ce personnage ce matin? Eh bien, finalement, assez peu de choses. Luc ne se décrit pas lui-même dans son évangile. Ce que l'on sait d'abord, c'est que c'est un auteur non-juif, de par son nom. C'est le seul du Nouveau Testament qui était non-juif. Il est docteur de profession, on l'apprend dans Colossiens chapitre 4, verset 14. C'est un homme éduqué, qui a une parfaite maîtrise du grec. Il a composé un quart du Nouveau Testament. Donc c'est loin d'être négligeable. Luc et les Actes des Apôtres composent à peu près un quart du Nouveau Testament. On ignore la façon dont Luc s'est converti à la foi chrétienne, lui qui n'était pas juif donc d'origine. Mais toujours est-il que lorsqu'il rencontre l'apôtre Paul et l'accompagne dans ses voyages missionnaires, il est déjà un homme dont la foi est mûre. Le fait que Luc ait accompagné Paul dans ses voyages missionnaires fait de lui un voyageur ouvert sur les événements de son temps, quelqu'un qui est au courant de tout ce qui s'est passé dans la progression de cette église primitive. Et il a écrit donc son livre, l'Évangile, à peu près vers 60 après Jésus-Christ. Ces évangiles, donc, enfin, ce livre, est destiné donc à un certain Théophile, comme nous venons de le voir. Alors, commençons donc notre prédication dans le vif du sujet. Puisque nous n'avons que 4 versets ce matin, nous allons pouvoir rentrer assez profondément dans le texte. Et je vous propose un découpage en 3 parties. Les versets 1 à 2 nous parlent de l'évangile avant Luc. Le verset 3, donc 1 à 2, l'évangile avant Luc. Le verset 3, l'évangile selon la méthode de Luc. Et le verset 4, le but de cet évangile. Donc premièrement, l'évangile avant Luc, versets 1 et 2. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole. Bon, ma version s'arrête là, il y a une virgule après. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, il est notable qu'avant la rédaction de ce livre, plusieurs avaient déjà entrepris la rédaction de quelque chose. Plusieurs personnes avaient commencé à s'intéresser à la vie de Jésus et à en rédiger quelque chose. Peut-être Luc, sans doute, fait-il mention de Marc, dont on dit qu'il est le plus ancien rédacteur de l'Évangile, l'Évangile de Marc. Mais peut-être fait-il mention d'autres sources écrites qui ne nous sont pas parvenues, des fragments de paroles de Jésus. Mais toujours est-il que ça nous dit au moins une chose. Jésus était un homme important à son époque, suffisamment pour que des gens commencent à écrire quelque chose à son sujet. Verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement. Donc ces choses qui ont été composées ont été transmises par les témoins oculaires qui ont vu tout ce qui s'est passé. Ces témoins oculaires, évidemment, ce sont les apôtres qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, qui l'ont accompagné. Et ce verset est un vrai trésor pour les chercheurs de vérité. D'abord, les apôtres ont transmis. Littéralement, ils ont mis dans les mains d'un autre, un peu comme une course de relais. Vous avez la personne qui voit tout, qui est témoin de tout, et tac, qui transmet à la personne suivante pour être sûr que les choses soient bien transmises. Nous avons des gens qui sont des témoins oculaires. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils étaient là quand les miracles se sont déroulés. Ils étaient encore là quand Jésus est apparu ressuscité. Ce sont les apôtres qui ont passé 3 ans avec Jésus-Christ qui sont les meilleurs témoins de tout ce qui s'est passé. Et cette insistance sur l'aspect témoin oculaire n'est pas une spécificité de Luc, hein, puisqu'on le voit aussi dans d'autres livres comme Jean. On peut lire par exemple dans 1 Jean, donc pas l'évangile, mais la lettre de Jean, la première lettre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Donc 1 Jean 1, 1 à 3. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec vous. Écoutez, bon, si ce n'est pas une façon d'insister, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Jean insiste, réinsiste sur le fait que ces choses-là ont été vues. Vous pouvez nous faire confiance parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a entendu. Et pourquoi une telle insistance sur une transmission d'informations par des témoins oculaires? La réponse est simple, c'est la fiabilité. Si vous êtes un inspecteur de police, que vous enquêtez sur un crime, qu'est-ce que vous allez faire? Ben vous cherchez des témoins. Et si vous apprenez qu'il y a une personne qui a assisté à toute la scène depuis le début, ah ben vous serez très heureux, ça va beaucoup vous aider dans votre enquête. Mais mieux, si vous avez en votre possession plusieurs témoins qui étaient sur la scène du crime, qui ont vu ce qui s'est passé et dont les témoignages concordent, alors vous êtes sûr que votre enquête elle va être vite résolue. Vous allez pouvoir rentrer chez vous à 17h. Sauf s'il y a des problèmes de RER. Les témoins de Jésus-Christ, c'était les apôtres. Et ils sont devenus les ministres de la parole, comme on le voit dans le verset 2. Ministres de la parole, c'est-à-dire ceux qui ont porté hein, cette parole dans le monde entier. Ils ont joué un rôle important dans cette diffusion. Mieux ou pire, ils ont risqué leur vie pour porter cette nouvelle. La plupart des apôtres sont même morts en martyrs, tout simplement pour avoir témoigné de ce qu'ils avaient vu. C'est pas simplement une lubie, ils se sont dit « Tiens, allez, on va raconter des choses ». Si c'était des fables, ils n'auraient jamais perdu leur temps à porter cette parole et à risquer leur vie pour elle. Mais parce qu'ils avaient vu ces choses-là, parce qu'ils en étaient certains de par le fait qu'ils l'avaient vu, ils voulaient le transmettre aux autres. Donc l'évangile avant Luc, nous arrivons maintenant à l'évangile selon la méthode de Luc, verset 3. Il m'a semblé bon aussi, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Après avoir rappelé donc que les premiers récits de la vie de Jésus circulaient déjà, grâce au témoignage des apôtres, Luc expose maintenant la méthode de son propre travail. Et c'est extrêmement intéressant. D'abord, avec une humilité certaine, il indique que lui aussi, il lui a semblé bon de faire quelques recherches. Alors pourquoi pas? Puisque d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Oups, pardon. Pourquoi pas moi? Et donc il commence son récit. Mais pas n'importe comment. Luc, il a sa méthode, et c'est très intéressant qu'il nous dise comment il s'y prend pour écrire ce récit. D'abord, il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Plus littéralement, il a fait des recherches scrupuleuse. Il a pris du temps. Ça, c'est son travail d'historien. Hein. Quand vous n'avez pas été témoin vous-même des événements, vous cherchez. Vous allez voir les autres, ceux qui ont vu. Vous allez croiser les sources, vous recoupez, vous excluez ceux qui ne collent pas ou qui vous semblent fantaisistes. Vous consultez les éventuelles archives, vous vous rendez sur place pour constater si ce qu'on vous a dit est exact. Bref. Voilà tout ce à quoi Luc a dû s'astreindre pour rédiger son évangile. Notre docteur est entre guillemets un fanatique de la vérité factuelle. Et Elle le dit d'une autre manière dans le passage des Actes que nous avons lu tout à l'heure, prenant soin de préciser que Jésus se montra vivant avec beaucoup de preuves, ou bien, différemment, avec des évidences indubitables. Il prend soin de préciser que Jésus lui-même s'est montré avec des preuves. Luc veut marteler ça. J'ai des preuves, j'ai des sources solides, j'ai fait des recherches et ça colle. La résurrection est quelque chose de tellement incroyable, tellement énorme, qu'il faut bien l'étayer par des sources et des évidences inattaquables. Mais ce qui est intéressant, c'est que Luc ne s'arrête pas là. Dans son évangile, il y a partout des petits détails historiques ou géographiques qui sont des balises qui nous permettent d'attester que son travail est sérieux. Je vous donne deux exemples. Le premier, dans Luc chapitre 3, verset 1, il nous dit « La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconite, Lysanias sur l'Abilène, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. » Vous avez le tableau complet de qui était au pouvoir à ce moment-là. Pourquoi nous donner autant d'informations ? Ben, je crois parce que ça reflète ce caractère de Luc de vouloir inscrire son récit dans une réalité historique facilement vérifiable. Si vous êtes historien, vous pouvez aller chercher hein, si ce fameux Ponce Pilate, Philippe de Liturée ont vraiment existé, s'ils régnaient à cette époque-là. Et les contemporains de Luc, en tout cas, eux le savaient. C'est un peu comme si on disait la première année du règne d'Emmanuel Macron, alors que Angela Merkel était chancelière de l'Allemagne et que Mariana Rajoy était Premier ministre de l'Espagne, etc. Vous ancrez votre récit dans une réalité, dans un contexte historique qui permet d'en vérifier la crédibilité. Deuxième exemple, c'est dans Actes 27, où on nous décrit la traversée de l'Atlantique, la traversée de la Méditerranée par Paul et Luc. C'est un voyage pour le moins compliqué. Et dans ce récit donc, d'un chapitre, on a 18 indications géographiques précises. C'est un peu comme si on avait une carte sous les yeux et Luc nous dit « Voilà, on est passé par là, puis on a été ici, on s'est arrêté là. » Ensuite, on a mouillé dans un port qui était incliné en direction sud-ouest parce que c'était plutôt favorable, etc. Puis après, on a longé la côte, jusqu'à... Donc, tac, plein de petits détails comme ça qui nous permettent de montrer que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qu'il y a vraiment ce souci du détail. Dans ce même chapitre, il nous parle aussi de mots très spécifiques concernant les marines. Il nous parle d'un vent qui s'appelle l'Euraquilon, qui est un vent spécifique de la Méditerranée qui peut se transformer en tempête, un vent redoutable pour les marins. Il nous parle d'encre flottante, d'agrès, de sondes, de voiles de misaine, de mâts d'artimon. Enfin, c'est un vocabulaire très technique, très maritime. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, pour les gens qui connaissent le milieu de la mer, ça parle. Ils disent, ouais, ce gars-là, il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il dit. C'est un souci du détail qui se voit même dans ces circonstances-là. Luc a également rédigé son récit depuis les origines. Il le dit donc, toujours chapitre verset 3, « J'ai fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines. » Là encore, on reconnaît la marque d'un historien sincère et scrupuleux qui s'intéresse aux choses dans leur globalité. Si vous êtes par exemple un historien qui s'intéresse à la Révolution française, bien sûr vous devez être calé sur la Révolution française, mais vous allez faire des recherches sur tout ce qui précède. Vous devez être inattaquable sur le règne de Louis XVI pour savoir tout ce qui s'est passé et quels ont été les événements, les enchaînements d'événements qui ont amené jusqu'au déclenchement de la Révolution française. Vous vous intéressez au commencement, au début. Et c'est ce que Luc a fait. Il est ainsi le seul des quatre évangélistes à nous parler de la naissance de Jean-Baptiste, avant même donc Jésus, et même du contexte de la naissance de Jésus-Christ. Donc il veut nous planter un décor global pour que nous ayons une vision de tout ce qui s'est passé. À ce stade, je voudrais faire une petite parenthèse, mais qui a quand même son importance. Nous croyons que l'évangile de Luc, comme tous les autres évangiles, est inspiré par le Saint-Esprit. Mais on a vu en même temps le travail considérable que Luc a réalisé pour écrire cet évangile. Ça nous montre une chose, c'est qu'on ne devrait jamais séparer hermétiquement le Saint-Esprit et la raison humaine, l'intelligence humaine. J'ai entendu par exemple une fois un lycéen chrétien qui disait « J'ai pas révisé mon bac, c'est pas grave, parce que Saint-Esprit va m'assister. » Il a eu la chance, il a eu son bac. Mais le Seigneur a usé de grâce malgré tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette foi? Ça porte un nom, ça s'appelle la paresse, tout simplement. Ou on entend aussi parfois des prédicateurs qui disent « Ouais, j'ai pas besoin de préparer mes sermons parce que Saint-Esprit m'assiste, vous voyez ? Pas besoin de préparer. » Pire, une préparation serait synonyme d'un manque de foi ou un manque de dépendance envers le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement imbibés, imprégnés de la parole, qu'effectivement, peut-être n'ont-ils pas besoin de préparation pour leur prédication. Mais la plupart du temps, je pense que ça cache d'autres motifs. Ça peut être aussi une sorte de paresse intellectuelle, ça peut être un agenda tellement surchargé qu'on n'a plus de temps pour se préoccuper de la préparation de la prédication et du coup on compte sur le Saint-Esprit pour nous donner un coup de pouce. Ou bien ça peut être, et peut-être plus grave encore, le désir pour le prédicateur de se mettre en avant aux dépens de la parole de Dieu. On en entend beaucoup qui parlent, et quand ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur vie, de leurs expériences, de tout un tas de trucs, mais qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Dans ces circonstances, effectivement, pas trop besoin de creuser le texte. Et puis, peut-être troisième exemple, dans la conversion des non-croyants, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de pardon, de péché, qui convainc de la grâce du Seigneur. Mais on a notre part à jouer dans tout ça. C'est nous qui sommes responsables de porter la parole de Dieu, de travailler pour ça. Luc, c'est un modèle de sérieux et d'application. C'est un homme droit, c'est un homme qui prend du temps, c'est un homme qui cherche. C'est un homme qui est sérieux dans sa démarche. Est-ce que nous sommes des modèles aussi à cet égard dans notre activité respective? Est-ce que nous sommes sûrs que sous la dépendance du Seigneur, les facultés de l'homme et le Saint-Esprit collaborent ensemble et ne s'excluent pas mutuellement? Je crois que c'est une vérité importante à retenir. Mais je ferme ici la parenthèse. Luc, donc, a exposé son écrit de manière suivie. Nous sommes toujours dans le verset 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, qu'il a une approche chronologique, d'une manière suivie depuis Jean-Baptiste jusqu'à la mort, la résurrection de Jésus. On a une approche chronologique, logique. Mais pas simplement. Parfois, Luc s'écarte de l'aspect chronologique pour donner des thèmes plus thématiques, plus moraux ou théologiques. Donc il a construit son récit de telle sorte qu'à certains moments, il y ait une vérité particulière qui émerge et qui soit mise sous les projecteurs. Je vous donne juste deux courts exemples. Au chapitre 8 de son évangile, versets 26 à 55, on nous décrit successivement la victoire de Jésus sur une tempête, la victoire de Jésus sur un démon, la victoire de Jésus sur la maladie et la victoire de Jésus sur la mort, finalement. Et juste après, Jésus envoie les 12 disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Le message, il est clair. Jésus a reçu tout pouvoir. Et donc, les disciples peuvent aller porter la bonne nouvelle avec certitude. Le verset 16, quant à lui, est quasi exclusivement composé de paraboles qui concernent l'argent. Un peu comme si Luc voulait mettre le focus sur ce point-là en particulier. Donc c'est un homme précis, Luc, c'est un homme qui travaille de manière chronologique, mais qui travaille aussi de manière thématique, qui a ordonné son récit d'une manière qui soit facilement accessible. Enfin, il s'adresse à un homme, Théophile. Bon, on dirait que c'est tout à fait anecdotique, mais pas tant que ça. Théophile, on ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il n'est pas juif non plus, son nom l'atteste. Et l'épithète excellent ou honorable, ça dépend des traductions, suggère qu'il est d'un rang social élevé dans la société romaine. Ok. Et donc, ben, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Luc a fait tous ses efforts de recherche, tout ce travail d'historien, tout ce travail d'organisation pour une personne. Il n'a pas cherché à écrire un best-seller qui se vende à des millions d'exemplaires. Il a fait tout ça pour un homme, Théophile. Et les actes, c'était aussi pour Théophile. Franchement, si vous aviez vécu à l'époque de Luc, est-ce que vous auriez consacré autant d'efforts pour écrire deux livres historiques juste pour une personne? Moi, je crois pas. À la rigueur, j'aurais écrit à Théophile. Bon, écoute, Théophile, là, je t'écris une petite synthèse de ce qui s'est passé. Hein, j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia. Donc, on a deux, trois infos. Je te les envoie sur une copie double. Bon, mais là, tu vois, il faut que j'évangélise le monde. Donc, j'ai pas trop le temps non plus d'entrer dans les détails. Donc, je t'envoie un truc global. Hein, comme ça, tu sais à peu près de quoi on parle. Et puis, on se revoit pour en parler. Non, il a vraiment pris le temps pour écrire ces deux livres à Théophile. Qu'est-ce que ça nous dit dans tout ça? Même si nous ne sommes pas écrivains évangélistes, ne méprisons pas le temps qu'on peut passer avec une personne, que ce soit un ami, un collègue, un voisin, un membre de notre famille qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Luc n'avait aucune idée quand il a écrit ces deux livres que son travail impacterait des millions de gens. Il l'a fait consciencieusement pour une personne et Dieu s'en est servi pour bénir des multitudes. Qui sait donc si notre témoignage patient, persévérant, notre travail auprès d'une personne ne finira pas par aboutir à la conversion peut-être du futur Billy Graham. Qui sait? Mais nous en arrivons à l'objectif de Luc, verset 4, et je serai plus court, rassurez-vous, sur cette dernière partie. Le but de cet évangile. Pourquoi Luc a-t-il écrit cela à Théophile? Très clairement, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, ou plus littéralement, que tu reconnaisses la certitude des paroles que tu as reçues oralement. Donc, Théophile avait entendu des choses, et Luc, donc, lui expose par écrit afin qu'il puisse reconnaître la certitude de ses enseignements. Voilà le but, certitude. Et dans ces quatre versets que nous avons lus dans l'original grec, ça compose une seule phrase. Une seule phrase en grec qui se termine par le mot certitude. Alors, bien sûr, notre traduction française, on ne peut pas fonctionner comme ça, mais en fait, c'est comme si Luc disait, voilà, je t'écris ça, il y a des gens qui ont écrit des choses, blablabla, objectif, tac, certitude. C'est le dernier mot qui termine. Pourquoi je t'ai écrit tout ça? Pour que tu sois certain. Je veux que tu reconnaisses la divinité de Christ comme étant une chose certaine. Que tu ne restes pas dans le doute. Que tu sois certain que Christ a accompli des miracles. Que tu sois certain que cet homme a été crucifié et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je veux que tu sois certain qu'il a un message de salut et de réconciliation. Je veux que tu sois certain qu'il est bien le Fils de Dieu, le Messie promis. Voilà le but. Il y a dans la vie des certitudes qui changent la vie, n'est-ce pas? Avez-vous cette certitude? Ou êtes-vous rongé par le doute? Par l'hésitation au sujet de Dieu? Est-ce que vous avez du mal à croire ses promesses? Si tel est le cas, ce texte est fait aussi pour vous, pour que vous ayez des certitudes. On est dans un monde qui manque beaucoup de certitudes, qui ne sait pas trop où aller, qui passe d'une mode intellectuelle à une autre mode intellectuelle, Aujourd'hui, ce qui est vrai, demain est faux et redevient vrai le jour d'après. On ne sait plus trop. Dans ce monde-là, il est bon d'avoir des fondements sûrs. Et l'évangile de Luc et la Bible avec lui constituent une base solide sur laquelle on peut se reposer. Il n'est pas ici question d'une adhésion aveugle à une tradition, mais il est question de preuves irréfutables transmises par des témoins oculaires dignes de confiance. La foi n'est pas le contraire de la raison. Je le répète, la foi n'est pas le contraire de la raison. Et Luc, son évangile, en fournit un exemple brillant. Bien sûr, à un moment donné, il y a un abandon dans les promesses de Dieu. C'est évident. La raison peut aller jusqu'à un certain point et après, la foi prend le relais. Mais nous ne sommes pas appelés à reposer notre foi sur quelque chose d'aveugle, sur un mythe, sur des fables. L'évangile, et l'évangile de Luc en particulier, insiste sur cet aspect-là. Notre foi est crédible, elle repose sur des choses solides. Et le mot certitude en grec désigne aussi sûreté. C'est intéressant, n'est-ce pas? Cette certitude donne aussi la sûreté. La sûreté d'avoir une foi enracinée dans l'histoire et dans les faits, mais aussi la sûreté du salut, tel qu'il est annoncé dans cet évangile. La sûreté d'être aimé et d'être pardonné par Dieu malgré nos fautes. Et je trouve particulièrement intéressant à cet égard que Luc ait été le seul des quatre évangélistes à nous avoir rapporté cette magnifique parabole du fils prodigue qui donne à la fois cette sûreté pour le fils qui avait abandonné sa vie d'être accepté par un père bienveillant. L'image évidemment du pécheur qui se repent, qui vient à Dieu et qui est accueilli par lui. J'en arrive à la conclusion. Après avoir vu ces quelques éléments, j'espère vous avoir convaincu qu'on pouvait sérieusement faire confiance au récit contenu dans l'évangile de Luc et plus globalement aux autres évangiles où on retrouve des éléments similaires. Évidemment, en une prédication, il est impossible de rentrer dans les détails au niveau de la certitude de notre foi, les détails historiques, etc. Aussi, je vous suggère la lecture de ce livre-là, qui s'appelle « Jésus, la parole est à la défense » de Lee Strobel. C'est un excellent ouvrage. Je l'ai lu quand j'étais adolescent, déjà converti à cette époque-là. Je croyais que tout ce que la Bible contenait était vrai. On n'a pas besoin de ça pour en être convaincu. Mais c'est vrai que ce livre qui rentre vraiment dans les détails donne une... Ouais, c'est vraiment du solide en fait. Cette personne qui l'a écrit, Lee Strobel, était un journaliste. Il a été voir tous les meilleurs spécialistes théologiens, historiens, médecins pour voir si l'Évangile était vraiment un livre fiable. Et c'est plein d'éléments factuels, scientifiques, historiques très très intéressants. Ça se lit extrêmement bien, c'est pas du tout un livre pour les experts, ça se lit comme une enquête journalistique. C'est un ouvrage vraiment passionnant que je vous recommande. Mais Luc, même si nous croyons que c'est un évangile fiable de par tout ce qu'il nous dit, au final, le rédacteur ultime, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il nous est dit dans l'Écriture que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que nous lisons dans toute la Bible est inspiré par Dieu. Et si Dieu s'est donné autant de mal pour nous faire parvenir sa parole, s'il s'est donné autant de mal, entre guillemets, pour susciter des personnes qui allaient faire un travail de recherche pour relater ces événements, c'est que Dieu veut être pris au sérieux. Si vous rejetez la Bible, vous rejetez son auteur, Dieu lui-même, et vous témoignez votre mépris contre lui. Si vous reconnaissez la valeur de la parole et de son auteur, alors je vous encourage à l'écouter, pas simplement le dimanche matin, mais tous les jours de la semaine, à méditer cette parole et à la mettre en pratique. Au travers d'elle, nous découvrons plus que des phrases. Nous contemplons Jésus-Christ dans sa parole. Nous contemplons Jésus-Christ qui est la source de la vie, qui est la source de la vérité, et notre foi grandira de plus en plus en certitude et en sécurité. Qu'en est-il pour vous ? Je vous laisse y réfléchir. Nous allons terminer dans la prière. Père, nous trouvons dans ta parole cette affirmation. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans tout ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Merci pour la fiabilité de ta parole, notre Dieu. Merci pour ta fiabilité. Merci parce que notre foi ne repose pas sur des fables et des mensonges, mais sur des faits solides. Nous savons que le Christ est réellement le Messie promis. Nous savons qu'il est né dans des circonstances miraculeuses, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il règne aujourd'hui à ta droite, mais qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Merci pour cette parole vivante, Seigneur, et nous te prions que tu nous aides à la considérer avec tout le sérieux qu'elle mérite et dont elle est digne. Et nous te prions que tu nous aides à l'aimer de plus en plus, à la garder et à la pratiquer. Amen.